Fils de Dieu, celui qui est notre justice, comme nous venons de le chanter, a dit « Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent ». Préparons-nous donc à écouter cette parole de Dieu. Tournons dans nos Bibles, dans l'Épître de Paul aux Galates, notre Nouveau Testament à la page 214. Galates 2, 16 à 21, à la page 214. Avant d'écouter cette lecture, Galates 2, 16 à 21, nous prions. Quelle joie, Seigneur, et c'est vrai qu'il y a un grand bonheur à écouter ta parole et à la garder, la mettre en action dans notre vie de chaque jour. Montre-nous ce matin, dans ta parole, notre misère, mais montre-nous aussi ta miséricorde. Montre-nous notre péché, mais montre-nous aussi ta grâce. Montre-nous notre pauvreté, mais montre-nous aussi ta richesse. Montre-nous notre faiblesse, mais montre-nous aussi ta force. Montre-nous notre folie, mais montre-nous aussi ta sagesse. Montre-nous nos ténèbres, mais montre-nous aussi ta lumière dans laquelle tu nous appelles à vivre chaque jour à longueur de journée. Que ta parole s'installe en nous, qu'elle fasse une belle grande œuvre, car nous espérons en toi, Éternel notre Dieu, par Jésus-Christ. Amen. Écoutons ensemble Galates 2, 16 à 21. Sachant que l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais par la foi en Christ Jésus, nous aussi nous avons cru en Christ Jésus afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nul ne sera justifié par les œuvres de la loi. Mais si, en cherchant à être justifié par Christ, nous étions nous aussi trouvés pécheurs, Christ serait donc serviteur du péché? Certes non. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même transgresseur. En effet, par la loi, moi-même je suis mort à la loi afin de vivre pour Dieu. Je suis crucifié avec Christ, et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort pour rien. Amen. Sur toi je me repose, ô Jésus, mon Sauveur. Faut-il donc autre chose pour un pauvre pécheur? Ces paroles, qui sont un refrain d'un cantique chrétien bien connu, nous indiquent où nous pouvons trouver le repos. Sur toi, je me repose, ô Jésus, mon Sauveur. Faut-il donc autre chose pour un pauvre pécheur? Non, il ne faut pas autre chose que Jésus-Christ pour qu'un pauvre pécheur trouve le repos, le pardon de ses péchés et la justice. Pourtant, depuis l'entrée du péché dans le monde, les pécheurs prétendent qu'ils peuvent être sauvés et trouver le repos ailleurs qu'en Jésus-Christ, en dehors de lui, dans d'autres choses. La chose la plus courante par laquelle les pécheurs pensent pouvoir trouver le repos et se sauver, c'est leur bonne vie, leur soi-disant bonne vie. Ils pensent qu'ils mènent une existence correcte, qui mérite la récompense, entre guillemets, du salut, une vie qui est agréable à Dieu. Ils répètent, « Moi, je suis une bonne personne qui mène une bonne vie, et Dieu sauve les bonnes personnes qui mènent des bonnes vies. » L'apôtre Paul, porte-parole inspirée de Dieu, enseigne à travers ses épîtres, mais beaucoup dans l'épître aux Galates, que c'est une des pires erreurs qu'on puisse faire de penser qu'on puisse obtenir le pardon de nos fautes, le salut, la vie éternelle par notre soi-disant bonne vie. Notre bonté n'est jamais aussi bonne qu'on le pense en réalité, et notre méchanceté est toujours bien pire qu'on le pense en réalité. L'apôtre Paul, donc, considère dans ce chapitre, dans ce passage que nous venons de lire, la folie extrême de penser qu'on va se sauver par nous-mêmes. Regardez le verset 16 de Galates 2. « Sachant que l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais par la foi en Christ Jésus, nous aussi, nous avons cru en Christ Jésus afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nul ne sera justifié par les œuvres de la loi. » En écoutant ce verset, on se dit, ouais, il fait pas mal de répétitions là-dedans, dans ce verset-là, là, l'apôtre Paul. S'il avait soumis son manuscrit à un éditeur moderne, probablement que l'éditeur lui aurait dit, hey, tu vas changer ça, il y a bien trop de répétitions dans ce que tu dis, de redondance. Qu'est-ce qu'il répète ici? Trois fois la même chose. L'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi. Non, par les œuvres de la loi. Nul ne sera justifié par les œuvres de la loi. On a peine à imaginer une réfutation plus catégorique de cette idée de la fausse doctrine du salut par les œuvres. Il faut comprendre ici les œuvres de la loi dont Paul parle sont les actes d'obéissance à la loi de Dieu. Par de telles œuvres, par de tels actes d'obéissance, l'apôtre Paul dit que nous ne pouvons jamais être justifiés. Mais pourquoi? Écoutez bien la réponse très claire du catéchisme de Heidelberg à la question 62. Pourquoi nos œuvres bonnes ne peuvent-elles pas être notre justice devant Dieu, ou du moins en être une partie? Parce que la justice, pour subsister devant le jugement de Dieu, doit être parfaite et entièrement conforme à la loi de Dieu, alors que nos meilleures œuvres elles-mêmes, pendant cette vie, sont toutes imparfaites et souillées de péché. Si le salut s'obtient par nos œuvres d'obéissance à la loi de Dieu, je suis convaincu à 100% que je ne serai jamais sauvé, parce que toutes mes œuvres, mes actions sont défectueuses, imparfaites, déficientes. Et pas juste moi, la Bible enseigne que c'est le cas de tous les êtres humains sur la terre depuis l'entrée du péché dans le monde. Ceux qui prétendent donc être en mesure de se sauver par leur bonne vie ignorent, ne savent pas, ne saisissent pas que leur bonne vie n'est jamais assez bonne pour qu'ils soient sauvés. Leur bonne vie n'est jamais à la hauteur du contrôle de la qualité céleste de ce que Dieu requiert des êtres humains. Le Fils de Dieu, son sermon sur la montagne, a dit « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Y a-t-il quelqu'un qui pourrait se lever et dire « Oui, moi je suis parfait » Non, personne ne peut faire ça. La Bible enseigne qu'une pensée mauvaise est suffisante pour nous priver de la vie éternelle. Le Seigneur Jésus a dit qu'une parole blessante échappée par une colère non contrôlée équivaut à un meurtre. Jacques écrit dans son épître, « Celui qui pèche contre un seul commandement devient coupable envers tous les commandements. » Autrement dit, on ne peut vraiment pas s'en sortir par nous-mêmes, c'est impossible. Pourtant, des millions de personnes continuent à se convaincre qu'ils mènent une bonne vie, qu'ils sont de bonnes personnes, qu'ils n'ont jamais rien fait de mal et qu'ils vont ici pouvoir entrer au paradis par la grande porte. Cette fausse doctrine a été réfutée à répétition, mais c'est comme si c'est la religion naturelle des êtres humains déchus qui n'ont pas encore reçu l'Esprit-Saint. Cette confiance en nous-mêmes, en nos mérites, en notre capacité de soi-disant mener une bonne vie. On pourrait dire dans un sens que depuis l'entrée du péché dans le monde, tous les êtres humains, sans exception, naissent hérétiques dans ce domaine. Ils sont convaincus qu'ils méritent, qu'ils vont obtenir par eux-mêmes le salut. Quand on pense à l'histoire de l'humanité, c'est quand même très, très étonnant qu'encore l'homme s'imagine, s'illusionne qu'il est bon. Prenons juste le 20e siècle. Au début du 20e siècle, il y a le génocide arménien. Plus de 1 million de morts. La révolution bolchévique en Russie, 7 millions de morts. La Première Guerre mondiale, plus de 20 millions de morts et 21 millions de blessés. La Deuxième Guerre mondiale, 60 millions de morts, et ça, c'est le chiffre le plus conservateur, parce que si vous allez sur Google, ils vont vous dire entre 80 et 85 millions de morts et autant de blessés. Le conflit le plus meurtrier de toute l'histoire de l'humanité, c'est la Deuxième Guerre mondiale. La révolution culturelle en Chine, au moins 50 millions de morts. La guerre du Vietnam, environ 3 millions de morts. Le génocide au Cambodge, 2 millions de morts. Le génocide au Rwanda, 800 000 morts en 3 mois. Juste pour le 20e siècle. L'homme est fondamentalement bon, dit-on. L'homme s'illusionne, se trompe, se vante. Ecclésiaste 9:3 dit « Le cœur des humains est rempli de mal. » Voilà, ça c'est la vérité. Le cœur des humains est rempli de mal. Nous ne sommes pas des bonnes personnes. Regardez bien maintenant Galates 2, le verset 21, sur lequel j'aimerais insister plus ce matin. Paul écrit en Galates 2, 21, « Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort pour rien. Si c'est par notre obéissance à la loi de Dieu, par nos actes bons, que nous pouvons être sauvés, comme plusieurs le prétendent, Paul conclut, Christ est mort pour rien. On parle parfois de crimes contre l'humanité. Cette semaine encore, un président en Asie a été accusé de crimes contre l'humanité. Mais il y a aussi des crimes contre la divinité, si on peut dire. Et en voici un. Certainement des pires, c'est prétendre que Jésus-Christ est mort pour rien. Ceux qui pensent se sauver en eux-mêmes, ceux qui sont partisans du salut, faites-le vous-même. Proclame que le Christ est mort pour rien, que ce que a fait le Fils de Dieu était non nécessaire selon eux, que finalement les pécheurs n'en avaient pas réellement besoin puisqu'on peut s'en sortir par nous-mêmes. Le Fils de Dieu, dont l'incarnation est une merveille suprême et dont la mort bouleverse tout l'univers, quelqu'un osera-t-il dire que tout ça était pour rien, inutile, vain, superflu, un gaspillage de souffrance? Ceux qui affirment haut et clair qu'ils sont sauvés par leur bonne vie prétendent que leurs accomplissements humains sont aussi bons, sinon meilleurs, que la vie et la mort de Jésus-Christ sur la croix et que c'était tout à fait suffisant ce qu'ils font pour leur ouvrir la porte du paradis. Ceux qui ne se sentent coupables de rien de grave qui pourrait les priver du bonheur éternel, ils disent par leur attitude, le Christ est mort pour rien. Ceux qui sont humainement parlants, gentils, généreux, bons, bénévoles, d'une façon générale, qui sont des bonnes personnes dans la vie et qui pensent que ça, c'est amplement suffisant pour entrer au paradis. Ils sont en train de dire que le Christ est mort pour rien. Ceux qui ne se rendent pas compte de leur condition pécheresse et qui ne veulent pas la reconnaître pensent qu'ils sont bons, qu'ils sont mieux que beaucoup de monde et que le Seigneur, finalement, n'aura pas d'autre choix que d'ouvrir grandement la porte pour eux, car ils sont de bonnes personnes. Donc, ils disent et proclament que le Christ est mort pour rien. Si vous pensez vous-même, ici ce matin, que vous n'avez jamais rien fait, quoi que ce soit de répréhensible, vous commettez un crime C'est de penser que le Christ est mort pour rien. Selon votre opinion, vous prétendez que tout est beau, votre vie est bonne, vous n'avez jamais rien fait de mal. Or, il y a une chose que vous avez faite et qui est très, très grave. C'est de vous penser juste et bon, alors que Dieu proclame dans sa parole qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul. Et le Fils de Dieu lui-même, qui est la vérité, a dit « Nul n'est bon que Dieu seul ». Autrement dit, Dieu vous parle, s'adresse à vous par sa parole, par sa loi, vous accuse et vous condamne et vous dit « Non, non, moi je suis tout correct, bien correct, j'ai rien fait de mal ». Même si vous n'aviez jamais rien fait de mal pour vrai, mais que vous accusez Dieu de menteur, de dire un mensonge en disant que vous êtes pécheur, c'est très suffisant pour vous fermer la porte du paradis. En fin de compte, quand on réfléchit à l'affaire, penser que le Christ est mort pour rien, c'est un crime contre les trois personnes de la Trinité. C'est un crime contre Dieu le Père, qui a sacrifié son Fils unique bien-aimé. C'est comme s'il l'a sacrifié pour rien, c'est comme si en quelque part il a manqué peut-être de sagesse ou qu'il a fait une erreur. C'est la même chose, c'est un crime contre le Fils de Dieu qui lui-même est venu ici-bas sur la terre pour cette mission glorieuse et vous lui dites que ce n'était pas nécessaire. Tu es trompé, tu n'aurais pas dû. On est capable de s'organiser nous-mêmes. C'est aussi un crime contre le Saint-Esprit qui nous convainc, qui nous rappelle à quel point l'œuvre de Jésus-Christ est puissante et invincible et nécessaire et indispensable. Et nous, on dit non, non, pas nécessaire. Les sauvés chantent, comme on chante ici dans l'Église, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, à lui la gloire au siècle des siècles. Les personnes qui s'imaginent se sauver elles-mêmes préférerait chanter « À nous qui sommes bons, à nous la gloire au siècle des siècles ». Mais un tel chant ne sera jamais entendu au ciel, parce que c'est un chant qui traduit une pensée ennemie de Dieu et des hommes. Il faut y renoncer au plus vite. C'est un système d'orgueilleux que la Bible condamne. C'est une grande insulte aussi faite au Fils de Dieu. Ça accuse le Fils de Dieu d'être mort pour rien. Si nous pouvons gagner notre salut nous-mêmes, le Fils de Dieu n'aurait pas fait ce qu'il a fait pour venir nous l'acquérir. Un nombre considérable de gens pensent que frayer par nous-mêmes notre passage vers le ciel, que c'est une attitude noble, mais non, non, une attitude ignoble, qui est une insulte faite au Fils de Dieu. Ça revient à nier sa mission. Nous avons chanté tantôt des paroles bouleversantes des souffrances de Jésus. Quelqu'un peut-il lui dire « Tu as fait ça pour rien » quand on pense à tout ce qu'il a accompli et toutes ses souffrances et l'agonie sur la croix et l'abandon et les coups qu'il a reçus, les insultes et les crachats et tout le reste. Quelqu'un pourra-t-il dire « C'était pour rien, c'était pas nécessaire, c'était inutile, c'était superflu » Quelle horreur! Ça rabaisse, ça sous-estime la perfection de l'œuvre du Fils de Dieu. Les gens veulent payer ce que Jésus a déjà payé et que lui seul était en mesure de payer. Cette espérance d'être sauvé par notre propre bonne vie vole Dieu de sa gloire et méprise le grand cadeau que Dieu nous fait en nous donnant son Fils. Ça prétend que les accomplissements humains sont aussi bons que la vie et la mort du Fils de Dieu. Ça envoie le message « Nous ne voulons pas que cet homme nous sauve. » En Luc 19, 14, Jésus parle de ceux qui disent « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Et quand les pécheurs se confient en eux-mêmes, c'est comme dire « Nous ne voulons pas que ce Jésus nous sauve. Nous voulons nous sauver nous-mêmes. Nous voulons la gloire pour nous. » C'est ce que ça dit. Ça vole l'honneur du Seigneur Jésus. La pensée qu'on peut se sauver par notre bonne vie, pour prendre une image, c'est comme si ça enlève la couronne qui est sur la tête du grand sauveur Jésus et la place sur la tête de l'homme. Quelle horreur! Si nous pensons que nous pouvons nous sauver par nos propres mérites, notre bonne vie, nous n'allons pas soupirer après la miséricorde de Dieu. Prenons un homme qui va en cour en justice, qui est vraiment innocent, non coupable, Il le sait, il est non coupable, il est innocent. Il ne va pas dire au juge, je vous en prie, monsieur le juge, faites-moi miséricorde, faites-moi grâce. Il ne va pas dire ça. Il va dire, faites-moi justice, je suis innocent. Faites respecter mes droits. Ça prend quelqu'un qui est coupable, qui va dire, je vous en supplie, faites-moi miséricorde, faites-moi grâce. Mais des personnes qui pensent qu'elles ont une bonne vie, que tout va bien, qu'elles sont meilleures que les autres, qu'elles sont innocentes de toute faute, elles ne vont pas demander à Dieu sa miséricorde. Elles ne vont pas faire ça. Les êtres humains qui sont tous très orgueilleux ne peuvent pas endurer d'être sauvés sur la base de la miséricorde de Dieu. Elles n'aiment pas plaider coupable, se jeter dans les bras de la miséricorde. C'est trop humiliant. L'homme veut avoir un rôle dans le salut pour pouvoir avoir le crédit et la gloire. Les hommes préfèrent leur auto-flatterie à la vérité biblique et aux bras de la miséricorde de Dieu qui sont ouverts pour qu'on court vers lui. La Bible dit souvent que les pécheurs se trompent eux-mêmes. Ils se trompent eux-mêmes. Et c'est seulement quand on se trompe nous-mêmes qu'on peut en arriver à l'idée, finalement, qu'on est une bonne personne qui mérite le salut parce qu'on mène une bonne vie. Quiconque se sonde son cœur honnêtement, quiconque comprend un petit peu ce qu'est la sainteté de Dieu, ne peut pas continuer à dire « j'ai une bonne vie, j'ai une bonne personne, je mérite le ciel, tout va bien ». Impossible, impossible, impossible. C'est parce que nous ne nous examinons pas sérieusement à la lumière de la parole de Dieu que nous nous pensons bien bons. Ça fait penser à un entrepreneur qui pourrait prétendre que ses affaires vont super bien, son entreprise va super bien, mais il ne prend jamais le temps de regarder les finances de son entreprise. Mais tout va bien, tout va bien. Il vit dans une espèce de paradis de fou et un matin, peut-être la faillite va le surprendre. L'idée du salut par les œuvres, par notre bonne vie, s'accorde bien avec la nature détraquée de l'humanité. Chaque semaine, il y a des prédicateurs qui disent à leurs brebis, aidez-vous ou aide-toi et le ciel t'aidera. Ou encore, Dieu est prêt à faire sa part. Mais il faut que vous fassiez votre part, sinon Dieu ne peut rien faire. Ça équivaut à rejeter la doctrine biblique du salut par la grâce, au moyen de la foi, en Jésus-Christ. Dieu n'aide pas ceux qui s'aident. Dieu aide et sauve ceux qui ne sont même pas en état de se s'aider eux-mêmes. Ils ont essayé, ils ont manqué, ils ont échoué, ils ne peuvent jamais. Impossible. Donc Dieu sauve par grâce ceux qui se reconnaissent impuissants. La fausse doctrine du salut par les œuvres, si on y pense bien, là, elle n'a pas un seul mot de réconfort pour les pécheurs que nous sommes. Si cette doctrine-là est la façon dont nous pouvons être sauvés, si nous reconnaissons que nous sommes incapables, incompétents pour obéir à la loi de Dieu, à l'entièreté de la loi de Dieu, elle nous plonge dans le désespoir le plus total. Avant de quitter ce monde, notre Sauveur a dit à son Église, « Allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute créature. » L'Évangile proclame à toute créature, « Pécheur, vous êtes coupable. Par vous-même, vous ne pouvez pas vous en sortir. » Si vos péchés sont pardonnés, ce ne sera pas à cause de vous, de ce que vous avez fait ou de ce que vous pourriez faire, mais c'est uniquement par la grâce de Dieu, au moyen de la foi en Jésus-Christ seul. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. C'est l'Évangile que l'Église est responsable de proclamer à toute créature. Le salut n'est pas une dette que Dieu nous doit, mais c'est un cadeau gratuit un pur don de sa faveur que nous recevons par la foi. Regardez à nouveau le verset 16 de notre texte. Paul dit « L'homme est justifié par la foi en Christ Jésus. Nous aussi, nous avons cru en Christ Jésus afin d'être justifiés par la foi en Christ. » Si Paul avait mentionné à trois reprises qu'on ne peut pas être sauvé par les œuvres, il répète à trois reprises que c'est par la foi en Jésus-Christ. Écoutez bien la question 33 de la confession de foi de Westminster. La justification est un acte de la libre grâce de Dieu par lequel il pardonne tous nos péchés et nous accepte comme justes devant lui. Il fait cela uniquement à cause de la justice de Christ qui nous est imputée et que nous recevons par la foi seule. Sur toi, je me repose, ô Jésus, je me repose, mon Sauveur. Faut-il donc autre chose pour un pauvre pécheur? Non, il ne faut pas d'autre chose. Le réformateur Martin Luther a dit, « Dieu a promis de me sauver non en vertu de mes œuvres ou de mes efforts, mais en vertu de sa grâce et de sa miséricorde. Apprends à connaître Jésus-Christ et Christ crucifié. Apprends à chanter sa louange, à désespérer de toi-même et à dire, « Toi, Seigneur Jésus, tu es ma justice. Tu as assumé ce qui est à moi et tu m'as donné ce que je n'étais pas. » Devant Dieu, le pécheur ne peut présenter qu'une seule justice, celle de Jésus-Christ. Le pécheur est délivré et sauvé, non pas par ses œuvres à lui, mais par l'œuvre de Jésus-Christ. Sur toi je me repose, ô Jésus, mon Sauveur. Faut-il donc autre chose pour un pauvre pécheur? Non, il ne faut pas autre chose. Mais une question s'élève. Est-ce que cette vérité du salut par grâce au moyen de la foi ne décourage pas tout effort pour mener une vie sainte? Revenez dimanche prochain et nous aurons la réponse. Amen.